VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 26 février 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Nigeria, plus de 300 filles ont été enlevées dans l'état de Zamfara alors que 27 personnes kidnappées dans l'état du Niger sont toujours portées disparues. Au Niger, plusieurs opposants accusés d'être à l'origine des troubles ont été arrêtés. L'ancien Premier ministre Mahamadou s'est livré à la police. Au Mali, 9 soldats ont été tués, une dizaine blessés dans des attaques visant la gendarmerie. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a levé l'immunité du député Ousmane Sonko, accusé de viol. En Syrie, 22 combattants des milices pro-iraniennes ont été tués dans des frappes américaines en réponse aux attaques contre le personnel américain en Irak. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Au Nigeria, plus de 300 élèves ont été enlevés lors de l'attaque d'une école secondaire de filles par des dizaines d'hommes armés dans le nord-ouest du pays. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
La police a confirmé l'enlèvement de 317 écolières dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest par des hommes armés non identifiés. Selon Suleiman Tanu Anka, commissaire à l'information de l'état de Zamfara, des inconnus armés ont pris d'assaut l'école publique de Djengede ce vendredi vers 1h du matin et ont éméné des écolières dans la brousse. Enlèvement contre rançon, raid contre les villages, les attaques sont fréquentes dans l'état de Zamfara. C'est le deuxième enlèvement de ce type en un peu plus d'une semaine dans le nord du Nigeria. La semaine dernière, des assaillants non identifiés ont tué un étudiant lors d'une attaque nocturne contre un internat dans l'état de Naja et ont enlevé 42 personnes, dont 27 étudiants. Les otages n'ont pas encore été libérés. Plus de 300 garçons ont été enlevés dans une école en décembre à Kankara dans l'état de Katsina. Les garçons ont ensuite été libérés après des négociations avec des responsables gouvernementaux, mais l'incident a déclenché l'indignation sur le plan international.
Au Niger, 3 jours après la présidentielle, la tension est toujours vive avec la contestation des résultats qui donne vainqueur Bazoum Mohamed. Plusieurs responsables de l'opposition sont arrêtés depuis hier. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Alors que les manifestations ont baissé d'intensité, les interpellations dans les rangs des responsables politiques de l'opposition, elles, continuent. Hier, le ministre de l'Intérieur indiquait que beaucoup, dont M. Mahamadou, étaient activement recherchés. Ce dernier s'est présenté de lui-même ce matin à la police judiciaire en compagnie de son avocat, Maître Moussi Boubacar. En dehors de M. Mahamadou, d'autres leaders sont à la police judiciaire, tels que Jibril Barré, candidat à la dernière élection et frère du défunt président Ibrahim Barré Menassara, et Maman Ousseini, un capitaine de l'armée à la retraite. Un autre officier de l'armée à la retraite, le colonel Abou Oumarou, est lui aussi interpellé depuis jeudi, rejoignant le général Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major de l'armée. Selon des sources à Zinder, où se trouve le candidat Mahamat Ousmane, également une dizaine de responsables politiques de l'opposition est interpellé. Mahamat Ousmane, qui ne s'est plus exprimé depuis le message dans lequel il a revendiqué la vie. Hier, le Premier ministre Brigitte Rafini a rencontré dans l'après-midi les ambassadeurs et responsables des institutions internationales accréditées au Niger pour leur faire le point de cette situation particulière que vit le Niger depuis la proclamation des résultats de l'élection du dimanche dernier. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire du député et opposant Ousmane Sonko, visé par une plainte pour viol, ouvrant la voie à une convocation par la justice à laquelle il a déjà indiqué qu'il ne répondrait pas. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
91 voix pour, une contre et 2 abstentions. C'est le résultat du vote de la plénière qui a ainsi acté la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Rien ne s'oppose désormais à l'action de la justice envers l'opposant qui est accusé de viol par une masseuse d'un institut de beauté de Dakar. Pour arriver à la levée de l'immunité parlementaire, les débats ont été houleux. Les députés de la majorité ont jugé nécessaire de poursuivre la procédure parce que l'accusatrice de Sonko est une citoyenne et à ce titre, elle mérite qu'on prête attention à ses propos. Tandis que du côté de l'opposition, l'on estime que cette procédure est une tentative tentative de liquidation d'un adversaire politique. Des propos balayés par le ministre de la Justice qui révèle que le président était désolé quand il a appris l'affaire. Des propos qui n'ont pas convaincu les députés de l'opposition et les non-inscrits qui ont décidé de bouder le vote. Malgré tout, la majorité a voté et acté la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF a d'ores et déjà affirmé qu'il n'allait pas répondre à la convocation de la justice car la procédure a été biaisée. Il a aussi récusé le juge d'instruction du 8e cabinet dont il doute de l'impartialité. Ousmane Sonko a également appelé ses militants à résister. D'ailleurs, des manifestations ont eu lieu à Dakar, notamment à Rufisque et aux parcelles assainies, malgré une présence massive des forces de l'ordre. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Au Mali, au moins 9 soldats ont été tués et une dizaine blessés hier soir dans des attaques visant des positions de la gendarmerie dans le centre du pays où les djihadistes sont restés très actifs. Le point avec Nani Talani.
L'attaque a visé un petit bâtiment abritant l'escadron de la gendarmerie sur la route de Bankass selon une source militaire. Un autre responsable sécuritaire a pour sa part évoqué une attaque simultanée contre 3 positions de la gendarmerie à Banjagara. Les coups de feu ont duré une partie de la nuit, a déclaré un élu de Badjangara. Une autre source militaire avait évoqué un bilan provisoire de 8 morts et 9 blessés. Selon le porte-parole des associations du pays de Gan, Adama Dionko, les échanges de tirs ont duré parce que les assaillants étaient en nombre important. Il a aussi fait état des dégâts matériels considérables. Depuis 2012, le Mali subit des attaques répétées de groupes djihadistes qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés malgré l'intervention des forces onusiennes, africaines et françaises.
En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives du 6 mars s'est ouverte ce vendredi. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle en appelant à la désobéissance civile a décidé de participer à ce scrutin pour renouveler l'Assemblée nationale dominée par le parti au pouvoir. Le FPI de Laurent Gbagbo présentera des candidats sous la bannière de la coalition EDS qui a noué une alliance avec le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédier. La Côte d'Ivoire a reçu ce vendredi 504 000 doses de vaccins contre le coronavirus, les premières arrivées dans le pays qui sont financées par le dispositif COVAX. La Côte d'Ivoire compte plus de 32 000 cas confirmés de coronavirus et près de 190 morts. En Algérie, des milliers de partisans du Irak sont redescendus dans la rue ce vendredi à Alger après un an d'arrêt des manifestations à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré l'interdiction des rassemblements pour des raisons sanitaires, plusieurs cortèges se sont formés en début d'après-midi dans des quartiers populaires comme Bab El Oued pour rejoindre le centre-ville. Pékin s'est engagé à offrir gratuitement d'ici quelques jours 100 000 doses de vaccins anti-Covid à la Tunisie, où la vaccination dans le cadre du programme COVAX a été retardée d'un mois selon la présidence tunisienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Première intervention militaire de l'administration Biden dans l'est de la Syrie pour avertir l'Iran. Au moins 22 combattants ont été tués dans des frappes visant des milices pro-iraniennes en réponse aux récentes attaques contre la présence américaine en Irak. Des précisions avec John Lyndon.
Qualifiant cette opération militaire de défensive, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a précisé que les frappes nocturnes ont détruit de multiples infrastructures près d'un poste frontière utilisé par des milices soutenues par l'Iran. Les frappes ont été autorisées en réponse aux attaques récentes contre le personnel américain et de la coalition en Irak, a-t-il précisé dans un communiqué. D'après Washington, ces raids ont visé 2 factions de la puissante coalition de paramilitaires irakiens. Proche de l'Irak, l'est de la Syrie est dominé par des milices pro-iraniennes combattant du côté du régime de Damas. Les transferts d'armes transfrontaliers sont monnaie courante et le secteur subit souvent des frappes meurtrières imputées à Israël, grand ennemi de Téhéran. L'attaque américaine a été confirmée vendredi par la télévision nationale syrienne et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elle a fait au moins 22 morts.
Dans un communiqué, le gouvernement syrien condamnait les frappes américaines, les qualifiant d'agression et mettant en garde contre une escalade de la situation dans la région. Et la Russie, principal allié de la Syrie, a aussi condamné ces frappes. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a regretté que Moscou n'ait été prévenu par Washington que 4 ou 5 minutes avant les frappes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution exigeant l'équité dans l'accès aux vaccins contre la pandémie de Covid-19. La résolution appelle aussi à la solidarité et à des cessez-le-feu dans le monde pour mieux lutter contre le virus et procéder aux vaccinations de la population. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En Afrique du Sud, la dette publique devrait atteindre plus de 80% du PIB cette année. Les besoins d'emprunt resteront toutefois bien supérieurs à 28,2 milliards d'euros par an, au moins jusqu'en 2024, a averti le ministre des Finances Tito Mboweni. À partir du 1er mars, le pays va instaurer d'importantes hausses des taxes allant jusqu'à 8%, notamment sur l'alcool, le carburant et le tabac, pour combler le plus grand déficit fiscal jamais enregistré. Le gouvernement va aussi continuer à réduire la masse salariale de la fonction publique, alors qu'il y a eu récemment de nombreuses manifestations contre le chômage dans le pays. La décision du FMI d'accorder des facilités de paiement à la Zambie pourrait influencer les pays du G20 sur ce qu'ils pourraient accorder aux pays pauvres. L'enjeu est de taille pour l'Afrique, car plusieurs pays du continent sont en grande difficulté à cause du Covid. La Zambie est le troisième pays à demander une restructuration de sa dette auprès du G20, après l'Éthiopie et le Tchad. Pour terminer, l'indice des prix alimentaires de la Banque mondiale a augmenté de 14% l'an dernier. Le Covid-19 a mis en péril la sécurité économique, sanitaire et alimentaire de millions de personnes et précipité jusqu'à 150 millions d'autres dans l'extrême pauvreté en 2020. Les pertes de revenus se traduisent par moins d'argent disponible pour acheter de la nourriture. En plus, les perturbations des marchés et des approvisionnements en raison des restrictions à la liberté de circuler entraînent des pénuries et une hausse des prix, particulièrement de denrées périssables.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous, on connaît depuis hier les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans qui se jouent en Mauritanie. Le Ghana et l'Ouganda sont venus respectivement à bout du Cameroun et du Burkina Faso à l'issue des tirs au but. Retour sur place à Nouakchott sur ces deux rencontres avec Kader Traoré.
La Coupe d'Afrique des Nations de football dans la catégorie des moins de 20 ans et qui se joue du côté de la Mauritanie depuis le 14 février dernier est entrée dans sa phase des quarts de finale. Hier jeudi, au stade olympique de Nouakchott, les Black Starlets du Ghana ont sorti les Lionceaux indomptables du Cameroun, 4 tirs réussis contre 2 lors de la séance des tirs au but. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux formations se tenaient au coude à coude, un but partout. C'est à l'issue de cette même épreuve des tirs au but que l'Ouganda est venu à bout du Burkina Faso, 0-0 après 120 minutes de jeu et au finish, l'Ouganda s'impose 5 tirs contre 4. Oscar Barrow, le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, dira que ces garçons ont manqué de justesse devant les buts.
Je dirais qu'on n'a pas été efficace aujourd'hui devant les buts parce que les opportunités se sont bien présentées. C'est ce qui nous a un peu amené à cela. Le fait de trop rater les occasions, et les joueurs sont allés en doute et ça fait qu'ils n'étaient plus sûrs d'eux-mêmes. Pour faire des actions franches et déterminantes devant les buts.
Pour le sélectionneur de Kurin de l'Ouganda, ces jeunes ont mieux fait que se défendre et finalement, la victoire leur a souri. Kader Traoré à Nouakchott, en Mauritanie, pour VOA Afrique.
Thierry Henry a quitté ses fonctions d'entraîneur du CF Montréal, équipe du championnat nord-américain de football qu'il dirigeait depuis 2019. L'ancien international français a expliqué n'avoir pas pu voir ses enfants rester au Royaume-Uni. À raison de la pandémie de COVID-19, il a évoqué une année extrêmement difficile personnellement pour justifier sa décision, selon des propos rapportés dans un communiqué du CF Montréal. En Europe, l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic défiera Manchester United, ancien club de l'attaquant suédois, les 11 et 18 mars en huitième de finale de la Ligue Europa, selon le tirage au sort réalisé ce vendredi par l'UEFA à Nyon. Le club anglais et l'équipe lombarde s'affronteront lors de ce choc, tandis qu'Arsenal sera opposé aux Grecs de l'Olympiakos. L'AS Rome jouera contre le Shakhtar Donetsk et Tottenham fera face au Dynamo Zagreb.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Sénégal, l'immunité du député Ousmane Sonko a été levée ce vendredi lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale. Arrivé troisième à la présidentielle de 2019, l'opposant fait l'objet d'une plainte pour viol très médiatisée. Jeudi, il a défié la justice en affirmant qu'il ne répondrait pas à une éventuelle convocation du juge, estimant que les règles de la procédure de levée de l'immunité n'ont pas été respectées. Pour plus de précisions sur cette affaire, John Lyndon a joint Alassane Samba Diop, directeur de la radio Immédia à Dakar.
Il faut déplorer et dénoncer le fait que le médias n'ait pas pu avoir accès à la plénière de l'Assemblée nationale. Même si au niveau de l'Assemblée nationale, il a expliqué cela par le samedi en disant que c'est une plénière à huis clos parce que la maladie a touché cette fille, il y a même quelqu'un qui a tenu sa vie. Mais la presse pense de façon globale, même si la pandémie est annoncée, l'Assemblée devait prendre toutes les mesures sanitaires. Barrières qui permettent à la presse de venir assister à la levée d'une immunité parlementaire de Ousmane Sonko, parce que c'est une journée historique. Pour la bonne fin de Ousmane Sonko et la troisième personne après la présidentielle, elle est en troisième position lors de la dernière présidentielle ici au Sénégal. Et puis, même si moi, qui, pour le Sénégalais, pense qu'on peut dire que c'est lui qui incarne une position au président Macky Sall. Donc, une chose qui se passe à l'Assemblée nationale, le droit à l'information est constitutionnalisé au Sénégal, l'Assemblée devait permettre aux journalistes de venir accéder au lieu pour transmettre l'information. Cela étant dit, la deuxième chose qui va se passer, c'est que l'unité a été donnée à l'Ousmane Sonko. Même s'il a été une conférence précédente en disant que les règles selon lui ne sont pas respectées, d'autres parlementaires, d'autres députés, et puis de cela en disant que les règles ont été déréglées et respectées, c'est l'unité a été donnée, l'unité qui suit. C'est Ousmane Sonko doit répondre à la convocation de la gendarmerie et de la police par rapport à cette plainte. S'il ne le fait pas, la loi doit être appliquée. La gendarmerie et la police doivent être punies pour l'entendre.
Alors, Ousmane Sonko est accusé de viol, ce qui est une affaire privée. Comment est-elle devenue politique?
Au Sénégal, c'est ça qui est dommage. Au Sénégal, toutes les affaires privées qui touchent un peu plus cher, deviennent des affaires politiques. Nous sommes dans un pays où la capacité de faire la politique des Sénégalais est extraordinaire. On passe tout notre vie aujourd'hui, on se retrouve dans le cœur de la politique, du matin au soir. Ce n'est pas les élections. Dès qu'une élection est terminée, la campagne de la prochaine élection est déjà marchée, les gens sont dans et font de la politique. C'est dommage, ça a touché la personnalité de notre groupe. C'est une affaire privée qui dénonce les règles dans une affaire privée, mais nous sommes en train de nous-mêmes à politiser l'affaire, parce que c'est de bonne guerre, parce que c'est une stratégie qui est aussi pour se défendre. Le pouvoir aussi, dans un premier temps, n'avait pas voulu réagir, mais après une élection. Donc l'affaire qui est une privée de part est devenue une affaire privée. Mais ça, c'est dans l'affaire sénégalais qui passe le temps qu'à faire de la politique.
Est-ce qu'on ne s'achemine pas là vers une confrontation politique, justement, entre deux hommes politiques qui comptent au Sénégal, Macky Sall et Ousmane Sonko? Et il se dit à Dakar que le premier veut éliminer le deuxième.
Oui, mais Ousmane Sonko estime que la confrontation est inévitable. D'abord, il faudrait que le dossier soit vidé du point de vue judiciaire. traverser une confrontation publique, comment ça va se passer? On ne sait pas. Le suivi de ce combat qui sera mené entre son franco et le pouvoir qui est là par rapport à la mission de ce dossier. Déjà, certains militants de son franco ont commencé un tour partout à fabriquer aujourd'hui en ville et quelques chauffourées de l'Université de Dakar Oise, de tous les petits villes en plus. Maintenant, on va voir que tout ça va donner.
Alassane Samba Diop est directeur d'Immédia à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La Côte d'Ivoire organise ses élections législatives le 6 mars pour renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro et Charles Blé Goudé boycottent ces scrutins. Le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo et le PDCI de Henri Konan Bédié y participeront. Le retour du Front populaire ivoirien qui boycottait ses élections depuis 10 ans rebat les cartes du jeu politique dans le pays. Pour connaître les enjeux de ces législatives, Nani Talani a joint le journaliste et analyste politique André Silver Konan, basé à Abidjan.
Alors, moi j'ai fait un tour en ville aujourd'hui, en tout cas dans la capitale économique Abidjan, et je n'ai pas senti qu'il y avait des effervescences majeures, des mobilisations massives des populations. J'ai juste vu des affiches de campagne des différents candidats, ça s'arrête là pour le moment.
L'alliance PDCI-FPI pourra-t-elle remporter la majorité à l'Assemblée nationale?
On part quand même avec un parti au pouvoir, le RHDP, le parti du président Alassane Ouattara, qui part quelque peu favori, d'autant que les candidats suivent l'ensemble des 25 circonscriptions, alors que l'opposition, toute tendance réunie, n'a pas pu atteindre le nombre de candidats nécessaires pour couvrir l'ensemble des circonscriptions. C'est la moitié nord du pays. L'opposition, que ce soit le PDCI d'Henri Konan Bédié ou EDS soutenu par l'ancien président Laurent Gbagbo, et les formations politiques n'ont pas pu présenter des candidats sur l'ensemble des circonscriptions dans l'extrême nord du pays. Ça, c'est pour cette raison que le parti présidentiel part favori. Mais cela ne préjuge pas de ce que le parti présidentiel va remporter les législatives. L'opposition aussi a une chance de remporter la majorité. C'est une élection à l'issue incertaine.
Et Guillaume Soro dans tout ça?
Alors, Guillaume Soro a appelé à s'abstenir pour cette élection législative, estimant qu'après le boycott de la présidentielle, donc du renforcement de la démocratie, de la transparence électorale, il était inutile de partir à la compétition quelques mois après le boycott de la présidentielle, de l'élection qui est décrétée par l'opposition. Il n'empêche qu'il y a certains proches de Guillaume Soro partent quand même comme candidat, en l'occurrence l'ancien ministre des Sports, l'un de ses hommes forts, Alain Le Bonnon, député sortant du Fresco, qui, depuis sa prison, il est en prison depuis un mois de façon tout à fait d'ailleurs injuste, d'autant que certains des co-détenus ont été libérés dans la même affaire, sans qu'on ne sache très bien s'il leur était reproché ou non. Alors, depuis sa prison, il est candidat. Donc, Guillaume Soro maintient sa position quant au boycott, mais certains de ses proches vont quand même à la compétition.
Les législatives et le retour de Laurent Gbagbo vont-ils aider à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire?
Ma réponse est radicalement non. La réconciliation va au-delà des élections. Les élections législatives ne sont pas des gages de réconciliation. Les gages de réconciliation, prioritairement, c'est la justice. C'est la fin de l'impunité. Et malheureusement, pour ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore à ce stade où on met fin à l'impunité. Il y a eu au moins 75 morts lors de la crise électorale de 2020. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'à l'heure où on est en train de vous parler, on nous apprenne que pour chacune des 75 victimes au moins, il y a eu au moins une interpellation. Et lors des élections passées, pour les élections par exemple locales de 2018, il y a eu au moins 5 morts. À l'heure où je suis en train de vous parler, la justice ne nous a pas dit qu'il y avait eu des interpellations dans ce sens. En 2010, il y a eu une crise post-électorale avec au moins 3 000 morts. À l'heure où je suis en train de vous parler, il n'y a eu qu'un seul procès dans le cadre des victimes de la crise post-électorale de 2010, à savoir le procès qui a d'ailleurs été patré de l'ex-première dame Simone Babo. Vous voyez, la réconciliation, le meilleur gage de la réconciliation, c'est la justice, et malheureusement, pour l'heure, ce n'est pas ce que nous voyons.
C'était le journaliste et analyste politique André Silver Conan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Selon les données des Nations Unies, les pays du Sahel ont le taux le plus élevé de mariage d'enfants au monde, avec plus de la moitié des filles mariées avant l'âge de 18 ans. Henry Wilkins de VOA a tendu son micro à une jeune Burkinabé mariée à 12 ans à un polygame de 54 ans. Aujourd'hui, elle soutient des victimes de cette pratique encore très courante au Burkina Faso, où plus de 52% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Le récit est de Lionel Gaye.
Viviane Sawadogo est un nom d'emprunt que cette victime porte pour protéger son identité au Burkina Faso. Sa famille l'a forcée à se marier à l'âge de 12 ans. Son mari avait plus de 50 ans et déjà 4 femmes. Sawadogo avait été promise dès sa naissance à la famille de cet homme. Plus tard, elle a décidé de s'échapper de ce qu'elle décrit comme une malédiction et a pris la fuite.
Quand j'avais 12 ans, et je faisais la classe de CM2. On m'a donné un mariage à un homme qui avait à peu près 54 ans. Il avait 4 femmes et plusieurs enfants. Et je me suis sentie mal à l'aise car j'avais une forte envie de continuer mes études que de me marier aussitôt. Ça, j'ai décidé de m'échapper à ce fléau-là. Un matin, je suis sortie de la maison, marché de 8h à 23h, plus de 30 km. Et malheureusement, on m'a retrouvée sur la route et me fait ramener chez lui encore. J'étais totalement découragée et je n'ai pas baissé les bras. Cette même nuit, j'ai repris la route. J'ai marché plus de 40 km. Arrivé à un carrefour où j'ai eu un car.
Sawadogo a trouvé refuge dans un centre mis en place par une église pour aider les filles fuyant les mariages précoces. Elle a vécu dans ce centre pendant 10 ans et a pu poursuivre ses études. Les pratiques traditionnelles comme offrir des filles à d'autres familles sont courantes dans le pays du Sahel, tout comme l'enlèvement de jeunes filles pour le mariage. Des organisations non gouvernementales comme Save the Children s'efforcent d'éliminer le mariage précoce. Elles estiment que le soutien financier et l'autonomisation des filles sont un élément essentiel pour mettre un terme à cette pratique. Toumanissal Issafou travaille pour Save the Children au Burkina Faso.
Le fait que les filles sont données en mariage, c'est parce que les parents pensent qu'ils n'ont pas des moyens de prendre en charge en famille. Donc, pour nous, une fille qui est victime de mariage d'enfant, ok, il faut qu'on trouve un moyen pour l'autonomiser.
Save the Children distribue de l'argent aux familles pour s'assurer que les filles puissent poursuivre leurs études et aide également à les former pour qu'elles puissent trouver un emploi. De son côté, le gouvernement du Burkina Faso affirme qu'une surveillance attentive des citoyens est essentielle pour empêcher le mariage des enfants. Soumaïla Sako, du ministère de la Famille et des Affaires Humanitaires.
Le Burkina a mis en place au moins 800 cellules de veille dans au moins 872 villages pour mener des actions de communication, des actions de prévention. Pour cela, on a sensibilisé pas moins de 4 millions de personnes sur le phénomène du mariage d'enfants.
Mais c'est une bataille difficile. Sœur Véronique Cansono, la religieuse qui dirige le centre de refuge pour les filles, dit que le conflit djihadiste dans le Sahel depuis 2012 n'a fait qu'empirer les choses.
Nous accueillons plus de filles que jamais. Cette semaine seulement, nous avons accueilli 4. Il y a des semaines où nous accueillons 6. Donc c'est un peu trop.
Déjà, 210 filles vivent au centre et les chiffres ne font qu'augmenter.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui.